RCF.
Dans le cadre du Salon international de l'agriculture, je tenais à recevoir des spécialistes de l'agriculture biodynamique, Kesako. On parle beaucoup du bio actuellement partout. Au Salon de l'agriculture, on va parler énormément du bio qui monte en puissance. Mais je dois dire que l'agriculture biodynamique, on ne sait pas trop ce que c'est au niveau du grand public. Interpellations, questions à poser. Je dois dire que je suis très heureux de vous avoir tous les quatre parce que vous êtes de très grands spécialistes. Alors je ne vais pas dire Pierre Masson, le grand spécialiste sur Terre de l'agriculture biodynamique qui va commencer l'émission. Baptiste Néran, donc viticulteur, je crois, dans la région Bourgogne.
Dans la région lyonnaise, coteau du Lyonnais, exactement.
Ah, superbe, voilà. À côté de RCF, superbe. Frédéric Chaise, jardinier. Maraîcher, les salades, influence de la lune, on va en reparler. Et Boris Pitot, donc la coopérative Terra Ventoux, je connais bien, là, au pied du Mont Ventoux, région superbe, et vous commencez votre démarche sous le contrôle de monsieur Pierre Masson. Donc Pierre, Salon international de l'agriculture, j'aimerais que tous les auditeurs et auditrices sachent un peu mieux ce qu'est l'agriculture biodynamique. C'est quoi ?
Alors bonjour. Alors l'agriculture biodynamique, c'est... En fait, la première des agricultures bio, elle est née en 1924. Elle est née d'un courant qui était animé par Rudolf Steiner, qui était un philosophe spiritualiste. C'était une époque de crise, une époque donc qui suivait le conflit de 14-18. C'est l'arrivée dans l'agriculture des engrais de synthèse, des produits chimiques de synthèse, et beaucoup de gens s'interrogeaient sur comment faire. Est-ce que c'est juste ce qui est en train de se passer dans l'évolution de l'agriculture? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire? Donc, il a donné un cours. Il s'appelle le cours aux agriculteurs, qui reste une base, une référence encore aujourd'hui pour ceux qui travaillent, que ce soit des vignerons, que ce soit des polyculteurs éleveurs, des maraîchers, des jardiniers amateurs. Et c'est un cycle de 8 conférences qu'il a donné donc en 1924. Et il a décrit un certain nombre de bases, de principes de base qui permettaient de renouer en définitive avec la nature, une nature cultivée. Une agriculture. Donc, on peut les citer, ces principes de base. Le premier, c'est l'idée que un domaine se porte d'autant mieux, une ferme, est d'autant plus fertile qu'elle est autonome. Ça exige de développer le maximum de diversité, diversité dans le monde végétal, avec les cultures, la rotation des cultures complexes, dans le monde animal, avec une spécificité, on cherche à obtenir ce qu'on appelle l'autonomie de la fumure. C'est-à-dire que si on arrive à faire que dans un domaine, on n'a pas besoin d'intrants, ou du moins le moins possible d'intrants, parce que c'est une sorte de perfection, cette idée d'organisme agricole autonome. C'est plutôt un idéal vers lequel on doit tendre. Mais ça constitue une base. Ça participe de la relocalisation des agricultures, aussi au niveau des pays, mais aussi au niveau des territoires. Donc ça, c'est la base qui, évidemment, ne peut pas être respectée par le vigneron qui commence, par le maraîcher qui est obligé de trouver de la fumure à l'extérieur. Donc c'est un chemin, c'est quelque chose vers lequel on doit tendre. Le deuxième principe, c'est de retrouver, par l'intermédiaire de préparations qui sont élaborées à partir de bousses de vache, de quartz, de différentes plantes dites médicinales, des préparations qui vont servir à régénérer les sols et à aider les plantes dans leur comportement. Donc on les distingue, il y en a deux groupes, un groupe qu'on pulvérise, qu'on appelle la bousse de corne, dite quelquefois 500 ou 500P, 500 préparés, et qui sert à stimuler la vie du sol. Donc on va, avec des toutes petites quantités, puisqu'on utilise 100 grammes par hectare, ça c'est un des principes de l'agriculture biodynamique, c'est le travail avec des petites quantités de substances. Donc 100 grammes par hectare qui vont être brassés, on dit quelquefois dynamisés, dans de l'eau de bonne qualité, et pulvérisés sur le sol. Et ça aide au développement du sol, à sa structuration, à sa humification. Ça aide aussi beaucoup le développement des systèmes racinaires, quels qu'ils soient, ceux de la vigne, ceux des plantes qu'on cultive, mais aussi ceux des adventices. Alors ça peut poser des problèmes, oui, mais c'est intéressant parce que les adventices, en fait, c'est elles qui créent les sols, qui créent la vie dans les sols.
J'aimerais justement, Pierre, que vous insistiez sur la terre, le sol riche en humus, cette terre qui a mis des milliers d'années pour avoir une activité microbiologique abondante. On dit que ces sols sont menacés sur la planète. Qu'en est-il alors que vous, l'agriculture biodynamique, c'est retrouver le sol dans, je dirais, son entité primaire, hein.
Alors on peut dire entité primaire, originelle, mais non, entité cultivée. Les sols se sont formés par les plantes. Les sols sont les enfants des plantes. Et aujourd'hui, le fait d'avoir employé beaucoup d'engrais solubles, d'engrais, on dit engrais chimiques, engrais de synthèse, est quelque chose qui a, et aussi les désherbants, est quelque chose qui n'a pas permis cette sorte de renouvellement de la fécondité des sols. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de stimuler cette vie, ces mycorhizes qui sont dans les sols, tout ce qui est en fait une sorte de vie primaire qui va mourir. Et c'est au travers de beaucoup de morts que va naître beaucoup de vie.
Bien sûr. Mais dites-moi, justement, vous me parlez des années 20, Rudolf Steiner, ses premières conférences en 1924. Pourquoi, bon, on connaît la réponse, mais l'agriculture biodynamique avait pratiquement disparu et qu'elle semble renaître actuellement. On va revenir avec des témoignages de jeunes producteurs, agriculteurs autour de cette table. Pourquoi ?
Alors, elle a, en France, on ne peut pas dire qu'elle ait disparu. Elle a été assez méconnue. C'est un courant marginal qui est douteux du fait de son orientation spiritualiste de départ. Ça fait peur. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas simple. Le courant a vivoté avec des gens qui étaient des idéalistes, mais on peut dire que tous les pionniers de l'agriculture biologique, que ce soit Pfeiffer, que ce soit André Louis, Matteo Tavera, les gens qui ont créé Nature et Progrès, tous ces gens-là, ils connaissaient la biodynamie, ils la respectaient, ils pensaient que c'était une démarche complexe, mais intéressante.
Alors justement, quelle différence, on y reviendra à travers les intervenants, mais pour les gens qui nous écoutent, quelle différence entre l'agriculture biodynamique et l'agriculture biologique, qui elle, semble-t-il, a le vent en poupe, les produits bio, etc., tout le monde s'y met. Quelle différence ?
Essentiellement, on va dire trois points. Le premier, c'est l'emploi de ces préparations biodynamiques. Donc, j'ai parlé de la première qui sert à faire se développer les sols et les systèmes racinaires des plantes. Il y en a une deuxième qui s'utilise aussi à des doses extrêmement faibles, 4 grammes par hectare, qui est la silice de corne. C'est-à-dire, c'est du quartz qui a séjourné pendant 6 mois dans des cornes enterrées dans le sol et qui, ressorti, va pouvoir être utilisé comme une sorte de homéopathie, le mot n'est pas tout à fait juste. Ouais. Homéopathie, ça signifierait que c'est on soigne le mal par le mal, homéopathos. Non, c'est des petites, très petites quantités de substances qui sont employées, qui servent à stimuler les organismes vivants. Donc là, avec cette silice, on va stimuler les plantes, leur comportement, le redressement foliaire, la qualité qu'on va obtenir des résistances, et la qualité aussi gustative, la qualité aromatique pour les plantes médicinales. Et ensuite, il y a 6 autres préparations qui sont destinées habituellement à être introduites dans les composts ou qui peuvent être employées séparément en cas de besoin dans les cultures et qui sont élaborées à base de plantes médicinales dont certaines sont mises à fermenter dans des organes animaux. Donc, ça, c'est un ensemble, c'est les préparations biodynamiques. En général, c'est par là qu'on commence, quand on veut commencer la biodynamie. Et il faut évidemment s'équiper un petit peu, parce qu'il faut pouvoir brasser, dynamiser ces préparations dans de l'eau de qualité. Il faut être... ça se fait pas sans rien. Le deuxième point qui caractérise la biodynamie, c'est le travail avec les rythmes cosmiques.
Ah,
mais pas seulement...
J'y arrivais. Alors, est-ce bien sérieux, mon cher Pierre, le rythme de la journée, de l'année, de la lune, est-ce bien sérieux ?
Alors d'abord, on est tous assujettis au rythme des saisons, à part si on habite à l'équateur. Hein. Et encore, il y a des saisons des pluies et des saisons sèches. Mais ici, dans nos pays tempérés, on voit bien que en ce moment, on est en train de vivre un vrai hiver. On est content parce qu'il n'y en a pas eu depuis longtemps. Ce grand rythme solaire, il n'est pas seulement annuel, il est aussi un rythme journalier. Tous les matins, eh bien, on peut ressentir d'ailleurs soi-même dans sa vitalité combien on trouve de l'énergie. Et puis chaque soir, ben, on est content de retrouver notre lit parce que les forces, elles partent, quoi. Donc, ce rythme-là, on en parlait tout à l'heure avec Frédéric, quand on fait un SMI du matin, eh ben, ça n'a rien à voir avec un SMI du soir. Le SMI du matin va avoir une vitalité immédiate et va fructifier davantage, etc. Le soir, il vaudrait mieux repiquer, transplanter les choses, parce que là, on s'oriente vers un rythme descendant, un rythme qui est favorable à la formation des racines. Ce rythme-là, il est transposable aussi du point de vue lunaire. C'est-à-dire que la Lune, elle a des mouvements ascendants et des mouvements descendants, qui sont des petites reproductions de ce qui se passe dans le cours de l'année avec le Soleil, montant du solstice d'hiver au solstice d'été, descendant du solstice d'été au solstice d'hiver. Alors ça, c'est pas le seul rythme. On connaît bien le rythme le plus connu parce qu'il est visible. On va bientôt arriver à la pleine Lune, ça se voit dans le ciel. Et ça, les jours qui précèdent la pleine lune, c'est des jours qui sont intéressants. Ça a été démontré en particulier par Colisco au départ, donc une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur les rythmes, sur bien d'autres choses d'ailleurs, touchant la biodynamie. Et ce qui est intéressant, c'est que ces rythmes, rythmes qu'on appelle synodiques, pleine lune, nouvelle lune, le rythme tropique, lune montante, lune descendante, mais aussi les rythmes plus fins qui sont critiqués quelquefois parce qu'ils ont... Ils sont faibles. C'est le rythme qu'on appelle le rythme sidéral, c'est-à-dire le passage de la Lune devant les constellations.
Ciel.
Pardon ?
Non, je dis ciel.
Ciel. Alors, on peut les voir dans le ciel. Alors donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un chercheur moderne, un forestier suisse qui s'appelle Ernst Zürcher, il vient de publier un livre formidable aux éditions Actes Sud, s'appelle « L'arbre entre visible et invisible ». Et lui, il a montré que statistiquement, de manière avec des statistiques significatives, on pouvait montrer que les bois, quand on les abattait, eh bien, ils avaient des comportements différents et qui étaient identifiables avec ce rythme sidéral, la Lune qui passe devant la constellation du Lion, celle de la Vierge, celle... Alors c'est intéressant parce que on était un peu dans quelque chose qui était un travail en interne, quelque chose qui était d'abord basé sur une tradition, très vieille tradition des constellations. Et les biodynamistes ont travaillé ça avec une certaine un pragmatisme. Aujourd'hui, on a des recherches scientifiques qui montrent d'abord que ce rythme, il existe. Alors ça, c'est très important. Après, comment le manier dans la pratique ? C'est pas si simple, parce que ça fractionne le travail, et il est plus, pour moi en tout cas, il est plus intéressant de se rapporter au grand rythme des saisons, du matin et du soir, pleine lune, nouvelle lune, le périgée, qui est la lune est proche de la Terre, et ça favorise beaucoup la vitalité, ça favorise aussi la vitalité des cryptogames. Alors c'est un peu compliqué à manier tout ça.
je voulais dire, non mais c'est passionnant ce que vous racontez, c'est vraiment passionnant. Non, justement, je voulais dire, Pierre Masson, pour ceux qui nous écoutent, mais beaucoup vous connaissent, 23 ans de pratique de l'agriculture biodynamique, c'est un peu ça. Hein.
22 ans, oui.
22 ans sur une ferme en polyculture élevage.
C'est ça.
Vous avez sorti pas mal de bouquins, vous donnez maintenant du conseil, de la formation. Il y a des films aussi que les gens peuvent aller voir. J'ai vu La clé des terroirs et puis d'autres.
Oui, oui.
Donc on peut, à travers vos documents, vous avez un site aussi, Pierre Masson?
Ah oui, alors on a deux sites. On a un site parce que j'anime une entreprise donc fournit les produits permettant de pratiquer la biodynamie, des préparations, du petit matériel. Et donc ça s'appelle Bio...
On va y revenir, Pierre, si vous avez oublié. Réfléchissez.
Équateur, le magazine du développement durable... RCF.
Nous reprenons cette discussion passionnante sur, dans le cadre du Salon international de l'agriculture, hein, je rappelle, du 25 février au 5 mars, quid de l'agriculture biodynamique. On a commencé avec Pierre Masson, le spécialiste de l'agriculture biodynamique. D'ailleurs, Pierre, vous m'avez pas répondu tout à fait tout à l'heure, c'est un tout petit peu sur la différence entre agriculture biodynamique et agriculture biologique.
C'est essentiellement c'est un rapport nouveau que l'agriculteur essaye de réaliser entre la terre et le cosmos. C'est un regard nouveau et qui se traduit par des gestes concrets. C'est ce passage des préparations dynamiques, c'est ce respect des rythmes que travaille avec les rythmes cosmiques. C'est aussi une troisième chose dont j'ai pas parlé, mais qui prend aujourd'hui une grande importance. C'est le travail avec les tisanes, les décoctions, les macérations qui est né. C'est né en 24 avec Steiner, avec la décoction de prêle. Aujourd'hui, tout le monde parle de ça dans les milieux maraîchers viticoles et la gamme s'est accrue. C'est-à-dire qu'au départ, on est parti de la décoction de prêle, de l'ortie et de la tisane d'osier. Et aujourd'hui, on a découvert plein de substances végétales qui peuvent être employées simplement et en étant rendues indépendantes des firmes. Même si aujourd'hui, elles cherchent à se réapproprier ce secteur, un des buts de la biodynamie, c'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle je suis venu au départ, c'était l'après-mai 68, et je cherchais une méthode qui me libère de l'emprise des firmes. Et la biodynamie, elle proposait l'organisme autonome. Il n'y avait pas de secret d'État, pas de brevet. Les préparations biodynamiques, chacun peut les faire. Ça m'a fasciné. Et c'est pour ça que je suis rentré.
Semble-t-il, vous avez encore des petits problèmes avec, on va pas citer les institutions, mais ministères, organismes officiels, etc. Quand vous touchez à ce genre de produits, l'ortie, etc. J'ai vu qu'il y avait parfois de petits problèmes, non ?
Il y en a eu, ça s'est géré. Le problème des PNPP a trouvé aujourd'hui un chemin assez tranquille. Il y a eu de très longues négociations. J'ai été moi-même un des participants au groupe de négociation avec le ministère. J'ai participé aussi au groupe de négociation pour les préparations biodynamiques qui posent d'autres problèmes à cause des organes animaux comme les cornes. Et la crise de l'ESB, enfin de la, oui, on appelle oui, la vache folle, a posé des problèmes réglementaires importants. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de dialogue qui concerne l'Europe entière et qui permet aujourd'hui d'avancer sans problème majeur avec ça.
Baptiste, approchez-vous bien près du micro. Baptiste, viticulteur ?
Oui, c'est bien ça, dans les Coteaux du Lyonnais.
À Coteaux du Lyonnais. Alors vous avez entendu le maître, Pierre Masson. Tu es jeune, comment vous êtes venu dans cette agriculture biodynamique ? C'est vrai qu'au niveau du vin, de plus en plus, nous voyons, même chez des grands distributeurs, on voit le petit logo, on va y revenir, à savoir si c'est sérieux Demeter, on voit vin, agriculture biodynamique. Pourquoi cette démarche, vous, en tant que jeune producteur ?
Alors tout d'abord, moi je travaillais pas du tout dans la viticulture au départ, c'est une reconversion, donc j'étais dans le marketing, même dans la chimie pour dire la vérité, donc c'était vraiment l'opposé, tout ce qui me posait problème, enfin en tout cas à l'aube de mes 30 ans ça a posé problème et j'ai tout abandonné pour retourner à ce que je voulais faire, l'agriculture en fait. Donc j'étais plutôt déjà très très sensible à l'agrobiologie, donc l'agriculture biologique, et lors de ma formation donc à Beaune, j'ai pu rencontrer beaucoup de viticulteurs qui travaillaient avec la méthode biodynamique. J'ai pu goûter aussi beaucoup de vins biodynamiques, même à l'aveugle, et c'était toujours des vins qui étaient beaucoup plus percutants, qui étaient beaucoup plus fins, précis, en fait, dans la gamme aromatique. Et c'est vraiment ça qui a orienté mon choix. Après, je me suis étonné, j'ai voulu découvrir. Et d'une manière très pragmatique, c'est pas les livres au début qui m'ont intéressé. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer donc Pierre Masson, d'avoir une petite formation avec lui. Après j'ai cherché aussi un peu plus loin avec d'autres. Enfin il y a plein de différents courants, mais qui ont la même philosophie globale quand même. Et donc le début de la démarche, ça a été ça. C'est vrai qu'il y a un très très fort engouement pour la biodynamie. Mais il y a encore beaucoup d'incompréhension entre, notamment dans le vin, entre le vin biologique, le vin biodynamique et le vin sans soufre. Parlons-en, le vin nature. Parce que chaque fois que j'ai des gens en face de moi, ils me disent donc il n'y a pas de soufre dans le vin. Non, pas forcément. C'est autre chose. On va dire que le vin biodynamique, le vin biologique, pardon, il travaille surtout sur la structure du sol. Il va commencer déjà de respecter le sol. Il va être dans la sensibilité. Ce que j'ai apprécié dans la biodynamie, moi, c'est de rentrer dans quelque chose de suprasensible. C'est-à-dire qu'on va chercher derrière les choses, derrière la matière. On va essayer de nous-mêmes changer notre regard, en fait. Et la biodynamie, elle ne fait pas que nourrir, à mon sens, le sol, les plantes. Elle nourrit aussi l'homme. Et c'est ça qui équilibre en fait globalement le rapport qu'on a avec les différents règnes. Et le troisième, donc c'est le troisième vin dont on pourrait parler, c'est un vin sans soufre qui peut être en bio ou en biodynamie, mais qui concerne uniquement, en tout cas, le caractère sulfite, c'est-à-dire il y en a ou il y en a pas. Point.
Mais quand on écoute Pierre Masson, ça peut décourager des jeunes producteurs parce que c'est un temps fou. Il est plus facile, effectivement, de diffuser des produits à tire-larigot, plus simple. Mais vous êtes à la fois agriculteur, je dirais médecin, philosophe. Vous regardez la nature, vos vignes. On va revenir sur le calendrier lunaire, etc. C'est un véritable travail 24 heures sur 24. Ça ne vous a pas découragé, ça ?
Non, pas spécialement. Alors au début, la biodynamie peut décourager par son aspect un petit peu, je vais être très franc, perché, on va dire, un petit peu comme ça. Voilà, c'est vu de loin, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce ouais. groupe, cette secte éventuellement. On peut même, j'ai entendu ça, donc pourquoi pas l'utiliser. Et au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà dans le milieu, qui connaissent déjà les pratiques, qui sont prêts à passer du temps pour former, pour aider. Il y a une formidable collaboration entre les paysans en biodynamie. Et il n'y a pas de concurrence entre eux. Et ça, déjà, c'est quelque chose de très positif parce que c'est dans la vie agricole conventionnelle, on va dire, c'est quelque chose qu'on retrouve absolument pas. Donc ça permet déjà d'appréhender la biodynamie d'une manière bien différente. Après, sur la complexité, moi, je ne respecte pas tout parce que je ne peux pas tout respecter. J'ai 3 enfants par ailleurs et voilà, il y a parfois des obligations auxquelles on peut pas se soustraire. Donc on fait ce qu'on peut, mais il y a 2 préparations sur lesquelles je suis intraitable. C'est tout ce qui est passage de la bouse de corne et de la silice de corne. Donc là, vraiment, pour la vigne, c'est des choses centrales. Après, tout ce qui est tisane, c'est annexe, c'est encore d'autres choses. On rentre dans la finesse, mais ce qui soigne le plus la terre, c'est ces 2 préparations.
Dites-moi, j'ai pas reposé la question à Pierre, mais sous son contrôle, ça veut dire quoi, bouse de corne? Ça veut dire quoi? Ça vient d'où?
Alors, c'est de la bouse de vache qu'on met dans une corne et qu'on va enterrer à l'automne. Voilà, qu'on laisse pendant tout l'hiver, pendant 6 mois. Et donc, au printemps, on vient la déterrer et on enlève donc la bouse, qui n'est plus de la bouse, en fait, qui devient donc de la 500, comme on dit en biodynamie. Et elle change complètement de couleur. Elle n'a plus l'odeur qu'on pourrait considérer comme agressive, un peu du fumier frais, on va dire. Et elle prend une couleur beaucoup plus sombre, elle devient beaucoup plus colloïdale et avec une capacité microbienne fertilisante multipliée. De l'ordre de millions, c'est énorme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en met 100 grammes pour 1 hectare. Donc c'est rien du tout et pourtant ça agit. C'est incroyable de voir même sur des sols pollués, puisque moi j'ai repris des vignes qui étaient en conventionnel. Je les ai mises en conversion bio et j'utilise ces préparats dessus, mais en l'espace de 2 ans, même d'un an, on commence de voir les résultats sur la structure du sol, sur la vie qui revient, sur les vers de terre qui reprennent des couleurs qui sont plus blanchâtres, moribonds. C'est fantastique.
Je comprends mieux.
Miraculeux.
Je viens de comprendre, en fait, que cette bouse de corne, c'était pas un truc des Indiens qui encensaient auprès du poteau tous les ans, auprès du pied de vigne en encensant la lune. Non. Je viens de comprendre que ce produit que vous répandez après, sur toute votre vigne, ça redonne une vitalité au sol, aux micro-organismes, d'une manière exceptionnelle. Là, je viens de comprendre, et c'est assez concluant.
Oui, c'est ça. En fait, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire qu'on sort de cette manière de penser qu'il faut donner en quantité à la vigne de la fumure pour qu'elle nous rende en raisin. Non, c'est pas comme ça. On nourrit le sol, la vie microbienne du sol, qui lui-même va libérer les potentialités du sol et les potentialités très spécifiques du terroir. Et c'est de là que justement les vins biodynamiques respectent le plus le terroir.
Qu'en est-il du calendrier? Parce que Pierre nous l'a expliqué très bien. Vous suivez ce calendrier lunaire, des astres, etc., etc.
Oui. Moi, ce que je suis le plus, c'est la lune montante et descendante pour les travaux sur la vigne, notamment la taille. On essaie le maximum d'être en lune descendante quand même pour le faire. Quoique, sur certaines parcelles un peu qui manquent de vigueur, on peut le faire en lune montante. On a des choses comme ça, des créneaux et des petites spécificités. Je regarde beaucoup les Périgées, donc comme disait Pierre, pour nous sur les cryptogames, ça a un effet incroyable les Périgées. C'est-à-dire qu'on voit vraiment la pression des cryptogames. Donc c'est ce qu'on appelle les maladies en fait du mildiou notamment, donc des champignons qui viennent sur la vigne pour vivre, pour se multiplier. Le problème c'est que ça se fait comme de la pourriture aux dépens de la vigne. Et nous, on lutte, on sait qu'on peut anticiper en fait le Périgée avec notamment des solutions de prêle, silice, enfin des choses comme ça. On sait qu'on peut travailler avec pour anticiper et pas avoir de grosses pressions en fait, voilà. Donc on est plus dans l'appréciation, dans l'anticipation, on réapprend à voir ses vignes, à les regarder, à les comprendre aussi, voilà. C'est on a un autre regard, c'est plus seulement quelque chose qui produit des hectolitres de vin. Là, il y a un rapport beaucoup plus intime qui
justement qui s'installe. C'est intéressant, Baptiste. Est-ce que vous privilégiez avant tout, j'ai bien compris, la qualité, moins la quantité, c'est-à-dire que votre production sera plus qualitative, semble-t-il, et moins peut-être prolifique?
Oui, totalement. Je pense qu'on peut pas prétendre à faire un grand vin. Là encore, on n'est pas forcément tous d'accord, mais en tout cas un bon vin, le bon vin dans le sens un vin qui nourrit, qui va nourrir le corps, qui va nourrir l'esprit, qui va fournir une ébriété, une qualité d'ébriété. Alors ça, c'est peut-être un petit peu tabou aussi. Il faut peut-être pas trop en parler. Normalement, on n'a pas bien le droit, mais pourtant, quand on a un vin qui n'a pas de pesticides dedans, qui a très peu de sulfite, on a une qualité de digestion après qui est bien meilleure. Et on n'a pas ce cocktail détonnant de pesticides ou de choses comme ça qui fait très mal à la tête. Il y a pas seulement les sulfites qui font mal à la tête dans le vin. C'est l'ensemble des produits chimiques combinés dans le vin qui a un effet détonnant après pour le corps humain. Et on ne sait même pas d'ailleurs où le corps le stocke. Donc c'est ce qui est vraiment incroyable.
Vous avez fait des progrès extraordinaires. Et Pierre Masson, je lui rappelais des anciens souvenirs. Nous nous sommes peut-être d'ailleurs croisés il y a très très longtemps. Quand je comparais les vins bio des années 60-70, je me rappelle des premiers salons Nature et Progrès. Quand on buvait un verre de vin bio, on allait très vite... ça se passait relativement mal, je veux dire. Maintenant, ils ont fait des progrès extraordinaires. Et maintenant, je pense, et je le sais, que la qualité de vos vins, c'était de la très très haute qualité.
Ce qu'on ne dit pas, puisque les grands domaines communiquent un petit peu plus encore, mais pas tous, même dans le Bordelais, on sait qu'il y a les plus grands domaines, les plus grands châteaux pratiquent la biodynamie, sans pour autant le dire. Et je pense que 80-90% des domaines, des plus grands domaines, des plus grandes appellations en France... utilise cette méthode-là, même sans en parler.
Mais justement, Pierre, pourquoi justement ces gens-là se cachent? Je veux dire, quelque part, c'est encore le côté secte qui joue. Que se passe-t-il?
Oui, peut-être. C'est peut-être dans certains milieux assez chaud pour oser dire qu'on pratique une méthode quelque peu bizarre. Mais on peut dire que les plus grands domaines de France, que ce soit... la Romanée-Conti, Château-Latour, dans le Bordelais. Dans la vallée du Rhône, on voit Chapoutier en Champagne, Roederer. Roederer vient de s'offrir 4 pages de pub dans Le Monde 2, dans laquelle il revendique pas la biodynamie, mais il explique ce qu'il fait en enterrant des cornes avec de la bouse, comment il suit les rythmes cosmiques, etc. C'est une aventure. Tout cristal est en biodynamie depuis l'an dernier. C'est-à-dire, et il revendique de mettre de la préparation en bouse de corne, de la silice, d'utiliser les rythmes cosmiques, de tailler en fonction de ça, pour une grande maison, qui est une maison pilote, on peut dire, pour la campagne, voilà du courage.
Oui, du courage. Mais donc, bravo.
Et de la réalité.
Oui, tout à fait. Mais il y avait bien un problème de communication, et ces gens-là font des efforts. Vous faites des efforts, d'ailleurs, c'est pourquoi... vous êtes ici à RCF aujourd'hui, des efforts de communication, c'est ce qu'il faut, parce qu'on ne connaît pas l'agriculture biodynamique. On va y revenir.
Environnement, commerce équitable, santé, Équateur.
On y revient sous l'agriculture biodynamique, une agriculture très sérieuse qu'il faut mieux connaître avec Pierre Masson, Baptiste Nérand, Boris Pitot, Frédéric Chaise. Frédéric, bonjour.
Bonjour.
En préparant cette émission, je vous ai eu au téléphone, vous m'avez fait rêver, parce qu'on quitte le vin, mais vous êtes jardinier, maraîcher, vous m'avez raconté des choses complètement folles. Je dis en blaguant, c'est sérieux. Donc comment ça se passe? Vous parlez à vos salades, vous parlez à vos légumes, vous suivez le calendrier? Non, comment vous êtes venu dans cette voie, et que pratiquez-vous? Comment ça se passe? Est-ce que les débouchés sont importants? On reviendra sur le vin. Comment ça se passe?
Un accident de vie m'a amené à la biodynamie. Et la biodynamie,
Ben, c'est une autre vie pour moi, mais une que j'aurais jamais pensé pouvoir avoir. C'est la plus belle vie rêvée, de pouvoir connaître ces choses-là. Cet éveil, ça vous emmène très loin, très haut, et en harmonie parfaite avec la nature. Je dirais que la biodynamie, c'est ce que la nature attend de nous. Ouais. Et si on a tous eu une mère un jour, on a la terre pour toujours.
Ouais, c'est bon ça. Ouais.
Et la biodynamie peut aider tout être vivant sur cette terre à vivre bien, heureux. Et voilà. Voilà pourquoi je pratique la biodynamie. Et la biodynamie pour moi, c'est aussi un travail énorme de chaque jour, de chaque seconde. Et dans ce travail-là, on obtient des résultats phénoménaux.
Ouais.
Magiques. Littéralement magiques. Pour exemple, parlons semences, haricots. Il m'est arrivé de faire germer des semences de haricots en une heure.
Non.
Et plusieurs fois. Des semences de chou rave aussi. Quand on pratique vraiment la biodynamie, on s'aperçoit que nous sommes forts aussi. Et que ces préparations et les tisanes, comme disait Pierre, qu'on peut s'approprier juste dans notre champ, et non pas dans le commerce, puisque tout est à notre portée, si on ne le bafoue pas, si on ne le détruit pas. Et la biodynamie le remet en vie. Donc on a toutes ces plantes autour de nous, et on crée une relation d'amour, je dirais, littéralement, et on a envie de les respecter chaque jour un peu plus, et on se les approprie, et elles nous parlent. Elles nous parlent, elles nous guident. Vers quoi ? Vers la création, simplement.
Vous êtes un poète, quelque part. Il faut aussi.
Non, non, je suis un jardinier. Un jardinier qui s'émeut chaque jour. Et venir aujourd'hui, pour moi, c'était un peu dur parce que je retiendrai toujours un peu mes mots parce que ça va bien plus loin que ce que je vous dis, quoi. C'est vraiment énorme, quoi. Ce que ça peut faire dans une vie et rayonner sur les autres.
Bien sûr.
Mes clients, j'ai un noyau de clients qui a été. Un vaste éventail au début, aujourd'hui c'est plus que des clients locaux, parce que je pars pas loin pour faire le marché, dans le durable le plus possible, donc 4 km pour aller faire le marché, c'est tout. Aucun intrant, aucun plastique, tout le travail est fait à la main, avec mes mains, et un petit tracteur quand même pour un passage à l'automne et au printemps. Et mes clients me demandent s'ils peuvent me dire « je vous aime ». Ils me disent mais comment faites-vous ? C'est incroyable. Toutes ces choses-là, je les entends régulièrement, quoi. Et après, dans la vie de tous les jours, il y a aussi autre chose qui se passe. Et même en dehors du champ, cette biodynamie-là, ce travail avec ces préparations, avec ce respect de la grande nature, ben on vous le rend chaque jour. Chaque jour, le soleil rayonne en vous, la joie. J'ai même découvert Dieu, c'est marrant, on est à Radio Fourvière, ça tombe bien de le dire. Moi, je l'avais oublié, Dieu. Ben, la biodynamie m'a ramené à Dieu. Je ne parle pas de M. Steiner ni d'anthroposophie. Je parle très simplement d'une émotion et de se dire ce vivant est si merveilleux, cette terre est si belle qu'il y a forcément une création. Et s'il y a un créateur, pourquoi pas Dieu, hein ? Voilà. Mais en tout cas, moi, je suis son serviteur.
C'est fantastique son témoignage, Pierre.
C'est tout à fait fantastique. Et moi, j'aimerais te poser une question. Tu as quand même fourni des légumes qui ont été appréciés à des grands restaurateurs comme les frères Troisgros à Rouen, et qui ont vanté la qualité biodynamique de ce qu'ils recevaient de ton jardin.
Tout à fait. Et ils sont même venus dans mon jardin. Et le tort que j'ai eu, c'est de mettre l'accent, et d'ailleurs on ne l'a pas mis, c'est sur la dynamisation. Parce que Maria Thu ne peut en parler, malheureusement elle est décédée, mais elle a dynamisé pratiquement tous les jours, toute sa vie. Moi c'est tous les trois jours. Donc j'ai une cuve en cuivre que j'ai pris chez Pierre Masson, c'était sa cuve d'essai. Alors chargée d'histoire, chargée d'impulsion. Ma première impulsion biodynamique, c'est Pierre Masson qui me l'a donnée une journée d'été. Je suis arrivé chez lui par hasard, amené par un ami, et je suis reparti avec une cuve, la cuve d'essai, un pulvérisateur, et mon grand parcours dans la biodynamie commençait dans la vie. Pierre m'a donné une deuxième naissance. Je ne peux pas dire autrement, puisque c'est une réalité, quoi. De le retrouver ici, aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, si on considère que
c'est
un hasard.
C'est important, de ce que tu racontes par passion, mais vous quatre, c'est très important. Mais ça veut dire des gens sérieux, mais qui sont des grands artistes de la cuisine. Quand on comprends, ces grands restaurateurs, ils viennent se fournir maintenant chez vous.
Non, plus maintenant, parce que moi, j'étais un peu têtu, et comme c'est Michel et César aujourd'hui qui sont en cuisine, et César, on avait une bonne relation, j'allais souvent en cuisine, puis un jour, on s'est un peu fâché pour une histoire de mesclin, mais c'est pas très grave, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que le grand restaurateur dise du bien de mes légumes, parce que lui, il sait ce que c'est.
Ouais.
Mais que le grand public qui consomme des choses, je dirais, toxiques, même dans le bio aujourd'hui, il faut bien se méfier. Moi, le bio-industriel de demain est déjà aujourd'hui en place, et c'est là où la biodynamie va prendre encore plus de place, je l'espère, puisque c'est réellement la seule agriculture durable, de par le cahier des charges d'Emeter, qui est le plus strict et le plus durable dans le respect de l'environnement de l'être humain.
Pierre, il vient de dire quelque chose d'important, Frédéric. C'est est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour, vu les débordements, enfin, je pense qu'il y a toujours des producteurs bio qui sont de très grands producteurs, mais est-ce que vous n'avez pas peur de ce débordement, justement, de ce phénomène de mode sur la biodynamie? Et puis quelques mots sur Demeter, justement, sur ce logo.
Oui, alors c'est un problème complexe. Je fais partie des pionniers qui ont commencé dans les années 1970. On était nourris par des idéaux humanistes. Et il y avait à la fois donc ce travail qui s'est construit avec Nature et Progrès, avec Demeter, le mouvement de culture biodynamique. Mais dans nos idéaux, c'était quand même que le maximum de surface sur la planète soit cultivée en bio, soit cultivée en biodynamique, l'alimentation bio, ben, qu'elle soit pour tout le monde. Alors ça a amené aujourd'hui les gouvernements qui se sont saisis de cette impulsion et qui ont pris en charge les cahiers des charges bio. Eh bien, il y a toujours des tiraillements, c'est-à-dire des tendances à tirer vers le bas. C'est pour ça que en France, par exemple, il reste des cahiers des charges qui maintiennent des idéaux élevés. C'est Demeter, c'est Nature et Progrès, c'est Biocohérence. Et ça, c'est important que le public il se rende compte que il peut y avoir de très bons bio certifiés avec le logo bio de l'Union européenne, mais la tendance, c'est un peu tirée vers le bas. C'est compliqué comme question, parce que moi, quand je vois des gens qui viennent à moi et qui ont 400 ou 500 hectares ou des vignobles très grands, qui ont plusieurs centaines d'hectares, j'ai toujours une sorte d'inquiétude. Mais comment est-ce que on peut gérer tout ça en tant qu'être humain? Comment est-ce qu'on peut tenir ça dans ses mains? Comment? Et alors, ça implique un travail social avec les salariés. Mais c'est un des principes de la biodynamie, par exemple, pour le cahier des charges d'Emeter, d'être exigeant dans le cahier des charges, mais de ne pas limiter la taille des entreprises, des domaines qui veulent passer à la biodynamie. C'est aussi faire confiance à l'humain. Ça, c'est important. Et on ne veut pas rester que dans des micro-entreprises. Elles ont leur sens. Tout ce qui a été mené par Pierre Ravi, par des gens qui ont une dynamique de relocalisation sur de tout petits territoires, parce qu'il y a des besoins qui s'expriment là-dedans et que c'est peut-être un avenir pour l'humanité, c'est une manière de voir. Nous, on en a une autre. On pense que plus il y aura de surfaces qui seront pulvérisées avec les préparations, et plus il y aura d'aliments de qualité Demeter, mieux ça sera. Et donc, des grands domaines peuvent y venir. Il faut qu'ils gèrent le problème éthique et le problème social. Mais c'est pas un préalable, c'est un chemin.
Boris Pitot, vous représentez la coopérative Terre avant tout. Vous avez entendu le maître, Pierre Masson. Attention à ce que vous allez dire. Vous commencez votre démarche. D'abord, en deux mots, c'est où Terre avant tout? Combien de producteurs? Et vous avez commencé cette démarche. J'espère que vous allez aller plus loin.
Alors tout à fait, donc Terre avant tout, c'est dans la petite ville de Ville-sur-Ozon, au pied du Mont Ventoux, à une demi-heure d'Avignon pour recentrer la chose. Donc nous, c'est venu en plusieurs points la démarche. Ça a d'abord été une problématique foncière, parce que bon, dans beaucoup de structures similaires à la nôtre, les coopératives, on s'aperçoit qu'il y a un vieillissement des adhérents, qu'il n'y a pas eu forcément de repreneurs. Durant les années 2000, les parents ils poussaient pas forcément leurs enfants à reprendre les exploitations, parce que c'était pas... Surtout avant tout, voilà, on n'est pas dans des appellations renommées, donc qui ont beaucoup de valeur comparé à d'autres en France. Donc c'est vrai qu'il y a eu une période un peu dure. Et donc, voilà, on s'est retrouvé face à ce problème en se disant qu'on allait perdre et du territoire et donc des apports. Donc, comment un peu dynamiser le territoire? Et donc, l'autre point, ça a été aussi la qualité des vins. Parce que, voilà, on est persuadé, j'en suis le premier, que dans le Ventoux, on a la chance d'avoir un terroir fabuleux. Et pour moi, comme pour nous, la biodynamie va permettre justement de tirer pour moi la quintessence du terroir. C'est vrai que je ne parle jamais de vins meilleurs en biodynamie. Il y a des gens qui font des très bons vins et qui ne sont même pas en bio. Mais pour moi, la biodynamie, ça va permettre ça. Voilà, vraiment d'avoir des vins qui ne sont pas copiables. Ça sera des vins qui seront vraiment l'essence même de leur environnement. Et donc, la démarche est partie là. Plutôt que proposer juste des vignes ou des parcelles en essayant d'attirer des nouveaux adhérents ou même aux plus jeunes, les enfants, leur dire peut-être qu'il faudrait reprendre l'exploitation. La biodynamie va permettre aussi d'avoir cette sensibilité et on s'aperçoit, comme on l'a dit, que c'est quelque chose qui aujourd'hui prend. Il y a quand même beaucoup d'élan. Moi, j'ai fait le tour des CFPPA, des lycées agricoles, et les directeurs, les professeurs me disaient que vraiment les étudiants étaient de plus en plus sensibles dans leur recherche de stage, même dans leur recherche de cours. Voilà, c'était les exploitations en biodynamie qui les intéressaient. Donc, pour redonner vraiment une impulsion au territoire, c'est vrai qu'on a décidé de tourner vers la biodynamie. Donc ça se fera pas, comme on l'a dit, ça se fera pas en un jour. C'est une démarche qui commence à peine. C'est un projet qui est maintenant sur les rails puisque dès 2017, il y a deux adhérents chez nous qui vont commencer l'agriculture biodynamique. Donc ça représentera 25 hectares. C'est déjà quelque chose, 25 hectares en biodynamie avec deux personnes. Voilà, comme le disaient mes collègues. Ça demande beaucoup de travail. On assimile souvent la biodynamie des fois à des choses un peu exotiques où on se dit les gens ils laissent pousser leurs herbes au milieu des vignes, ils s'occupent pas en fait de leurs vignes. Mais en fait non, la réalité c'est que ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de travail pour arriver à un résultat au final qui je pense je redis, il faut pas non plus être sectaire en disant que c'est meilleur ou c'est pas meilleur, mais en tout cas. Pour moi, ça permet vraiment des vins pas copiables, une quintessence vraiment du terroir.
On voit de plus en plus, d'ailleurs, mais je parle de toutes les régions, c'est les gens en France qui nous écoutent avec des grandes productions, le Bordelais, même l'Alsace, d'autres régions. Mais c'est vrai que dans votre région, on commence à découvrir pas mal de vins étiquetés Demeter, agriculture biodynamie, qui sont je dis pas des petits vins, qui sont des grands vins à un prix très 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 abordable, parce que je pense aussi, Pierre sera d'accord, ça passe aussi par le consommateur qui, lorsqu'il va s'apercevoir qu'il peut même au niveau des légumes avoir des produits bons, meilleurs, bons pour la santé, et c'est peut-être là l'avenir de vos métiers, hein. Vous êtes en plein dedans. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Et les gens, je pense, sont de plus en plus sensibles à ce qu'ils consomment. Pour moi, c'est pas encore gagné, mais on entre vraiment dans un moment clé où on s'aperçoit que les gens maintenant essayent de trouver leurs légumes par des groupements de producteurs locaux, leur viande avec des éleveurs. Et dans le vin, c'est pareil. Les gens sont prêts maintenant, je pense. Tout à fait, les gens consomment moins. Le vin n'est plus un aliment comme dans les années 60 ou 80 où il fallait la bouteille de vin à table. C'était indispensable. Aujourd'hui, je pense que les gens ont plus le côté plaisir festif du vin. Voilà. Ils vont peut-être être prêts à payer un peu plus une bouteille qui sera de bonne qualité et gustative. Et pour aussi la santé, même si c'est un peu paradoxal de parler de vin de santé, mais c'est une vérité. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a des fortes chances pour que de bons vins, de plus en plus, on ait de bons vins à des prix raisonnables.
Dans votre coopérative, vous entraînez combien d'agriculteurs? Vous nous avez dit en 2017, il y a deux agriculteurs qui se lancent dans la biodynamie. Vous espérez, vous escomptez dans les années à venir combien?
C'est très difficile à dire. Ça dépendra, je pense, du résultat. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui chez Terra Ventoux, des adhérents, je pense, qui attendent de voir parce qu'ils sont toujours un peu frileux, toujours un peu peureux.
Ouais.
On aimerait bien, d'ici 3 ans, être sur 50 hectares. Ça serait déjà un beau résultat.
Bon, de toute façon, Terra Ventoux, moi j'avais reçu votre dossier, un terroir à découvrir, c'est comme ça que je vous ai invité. On peut aller sur votre site aussi, Terra Ventoux, pour avoir les renseignements. Vous faites aussi des journées formation, portes ouvertes.
Tout à fait, il y aura des journées formation qui vont être faites, et pour la biodynamie, mais aussi pour, on fait beaucoup de nos tourismes verts avec des vélos électriques, découverte des sentiers du Ventoux. Et pour la biodynamie, dès 2017, on proposera à nos adhérents, aux employés, ça va passer aussi par une formation interne, une sensibilité interne. Donc on va mettre en place beaucoup de choses pour essayer d'attirer le maximum de monde et d'énergie dans ce beau projet.
Équateur, les défis de notre temps.
Dernière partie d'Équateur sur l'agriculture biodynamique. On a appris beaucoup de choses durant cette émission, puis vos passions, Frédéric, ta passion, absolument superbe. On va terminer par Pierre Masson. Pierre, qu'espérez-vous justement de l'avenir de la bio, de l'agriculture biodynamique? Vous y voyez, ou alors il va falloir contrôler les choses, faire très attention. Vous voyez un développement extrêmement important, un développement qui peut être bon pour l'agriculture, le sol, mais surtout aussi notre santé, parce qu'on en parle de plus en plus de la santé et de l'environnement qui prend de plus en plus d'importance dans notre vie.
Oui, alors on pourrait dire que, bien sûr, j'attends un développement. Il est là, il se manifeste. Pendant toute une période, c'était plutôt des vignerons qui sont venus à la biodynamie parce que c'était évident pour eux. Les résultats étaient là, évidents. Ce travail qu'ont fait les vignerons, c'est un vrai travail de promotion d'une méthode. Et méthode, du grec méthodein, c'est-à-dire c'est un chemin. Qu'on parcourt. Aujourd'hui, on voit arriver beaucoup d'arboriculteurs, beaucoup de maraîchers. On voit arriver des polyculteurs, éleveurs, parce que ils ont entendu parler des résultats positifs qui étaient obtenus dans la vigne. Donc, c'est curieux d'ailleurs parce que il y a 40 ans, il n'y avait pas de vignerons. Il n'y avait que des polyculteurs éleveurs, des gens qui étaient des convaincus. Puis il y a eu la grande phase viticole. Et aujourd'hui, ça stimule un développement plus important. Alors moi, je suis intéressé
mais
Pierre, par ça.
Simple question. On comprend bien l'agriculture biodynamique dans le producteur de vin, les maraîchers, etc. Par contre, sur l'élevage, quid, ça veut dire quoi? J'élève des moutons, du porc. Ça veut dire quoi l'agriculture dynamique? Biodynamique.
Ah, c'est un sujet très compliqué. Vous savez qu'aujourd'hui, le grand débat qui est avec le mouvement vegan, donc qui voudrait absolument se passer de toute consommation de ce qui vient de l'animal, que ce soit de la viande, mais aussi le pull en laine, la ceinture ou les chaussures de cuir, etc., ou le travail des animaux. Et il y a dans le mouvement vegan quelque chose qui est juste parce que il y a un rejet des méthodes d'élevage aujourd'hui, concentrationnaires, de ces transports d'animaux où on emmène les brouteurs charolais vers l'Italie pour les ramener encore dans les mêmes camions pour les abattre en France. Il y a quelque chose de dramatique. Donc dans le mouvement biodynamique, il y a dès le départ une relation avec l'animal. Pas seulement les bovins, la vache qui est un peu au centre dans la biodynamie, mais comment regarder l'animal comme un frère, c'est un être aussi à son service, c'est notre serviteur, mais il faut aussi qu'on soit à son service. Donc depuis toujours, la biodynamie, elle a mis ça en œuvre, la relation avec l'animal. Par exemple, je prendrai un tout petit exemple, il y a tout un mouvement qui est né en Allemagne, en Suisse, qui recherche, par exemple, des abattoirs de proximité pour pas faire souffrir l'animal, pour que l'éleveur puisse accompagner dignement l'animal dans sa mort. Donc, il existe bien sûr ça. Vous savez que le blé et le pain d'Emmeter sont des choses très appréciées pour leur qualité d'avoir des gluten moins durs et moins allergisants. Il existe des producteurs de semences, de variétés d'Emmeter en Suisse, Peter Kunst en Allemagne, des blés qui ont fait leurs preuves, à la fois avec un rendement honorable, j'allais dire, mais surtout une qualité de panification, une qualité alimentaire qui est intéressante. Donc il est important que ça se développe, parce qu'on ne vit pas de vin. On vit aujourd'hui de légumes, de céréales, ça constitue la base de notre alimentation. Il faut progresser. Donc moi, j'ai espoir. Vous savez que en Australie, il y a plus d'un million d'hectares en biodynamie. Moi, j'ai beaucoup appris de Alex Podolinski, l'Australien, parce que chez lui, il y avait un réalisme. C'était d'abord des bons agronomes. Il faut faire d'abord une bonne agronomie. Il faut connaître son terroir, il faut avoir des pratiques cohérentes sur le travail du sol, une connaissance de son terroir. Et puis après, on est bio, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de pesticides de synthèse, pas d'engrais de synthèse, et on favorise le vivant par les engrais verts, par l'apport de fumures compostées, etc. Et puis après, il y a l'aspect biodynamique qui vient couronner un petit peu le tout. Aujourd'hui, quand je vois quelques études suédoises, allemandes sur l'alimentation qui montrent qu'on a plus de polyphénol dans les aliments biodynamiques, qu'on a moins de substances toxiques. Ces études, elles existent. C'est important. Donc, il y a un point, c'est l'alimentation. Le deuxième point pour moi, c'est l'évolution de la Terre. Je me sens très concerné par ça. La planète aujourd'hui est en perdition. On connaît tous les phénomènes du changement climatique. On connaît moins le problème de la fermeture des sols. Tous les sols, partout dans le monde, se ferment. J'étais paysan pendant 22 ans, j'ai pas voyagé. Je suis pas parti en vacances, enfin si, deux fois, en 22 ans. Puis depuis, j'ai beaucoup voyagé. Et je me suis rendu compte que ce soit sur le continent américain, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, j'ai vu partout les sols se saliniser, se fermer, les phénomènes d'érosion parce que l'eau ne pénètre plus, donc elle entraîne des érosions violentes, des accidents dramatiques. Et le mérite de la biodynamie, c'est de favoriser cette capacité d'absorption de l'eau par les sols, de réguler le débit des fleuves quand on a des surfaces suffisamment grandes, comme en Australie. Donc on a là un stockage de carbone par l'humus qui s'est formé. Et ça, on en a vraiment besoin. On peut faire, si on travaille bien, des stockages de carbone qui sont gigantesques. C'est des centaines de tonnes par an. Des centaines de tonnes. Voilà. Et donc, et ça, on le mesure. Nous-mêmes, on dispose d'un laboratoire, l'association Soins de la Terre. On travaille sur ces problématiques d'évolution des sols avec l'EPIA de Genève, c'est-à-dire Polytechnique Genève, avec des universités allemandes comme celle de Bonn et de Cassel. Et donc, je mets un grand espoir que les gens ouvriront les yeux sur les potentialités de transformation des sols, de changement, de potentialité pour le changement climatique et pour l'alimentation humaine. C'est-à-dire, ces deux choses en polaire, si vous voulez, mais qui ont de l'intérêt.
Pierre Masson, vous avez retrouvé le titre. Hein. On peut aller sur Internet, c'est Soins de la Terre.
Alors, il y a deux choses. Il y a soinsdelaterre.org, qui est une association qui essaye de, disons, de mettre à disposition beaucoup d'informations, et c'est une association qui fait de la recherche. Et autrement, c'est Biodynamie Service, qui, elle, est plus une association qui aide à trouver les produits nécessaires, mais qui aide aussi à ce que les gens viennent apprendre à faire les préparations biodynamiques. C'est très important.
Et puis, il faut féliciter aussi l'autre site sur le mouvement.
Alors, il y a le mouvement de culture biodynamique, et le site de Déméter, qui est aussi un site très important.
Donc on mettra tout ça sur le site de RCF, donc le mouvement Agriculture Biodynamique. Pourquoi d'ailleurs vous êtes réunis dans ce studio à RCF aujourd'hui? C'est, on a senti une véritable, c'est le cas de le dire, dynamique autour de cette agriculture biodynamique. Je tenais à vous remercier infiniment parce que nous avons appris beaucoup de choses. Maintenant, il faut parler de l'agriculture biodynamique. Pierre Masson, merci beaucoup.
Merci.
Vous êtes encore un jeune passionné après 22 ans, 23 ans de culture, de pratique biodynamique. Frédéric Chaise, merci pour votre passion. C'était vraiment sublime. Vous êtes le véritable poète, jardinier, maraîcher. Baptiste, bon vin. J'ai dit bon vin. Et puis Boris Pitot, donc vos conseils à continuer avec cette démarche au pied du Mont Ventoux, célèbre mot absolument sublime. Je vous remercie infiniment, c'était une très très belle émission.
Merci
dans le cadre du Salon international de l'agriculture. Merci, à bientôt.